Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal, local et régional. Déploiement du très haut débit sur le département du Rhône avec Daniel Valero, vice-président conseiller départemental en charge de la transformation numérique. Les nouveaux outils de médiation du musée municipal Paul Digny à Villefranche avec Irène Mani, responsable au service des publics. Et en conclusion, des élus sensibles à l'éthique de la permaculture par Valérie Blais. Calade, le journal. Quelques lignes d'amertume vagabondes en ces temps de festivités pour Claire Padiche. Le Père Noël a déserté les entreprises, nous confie-t-elle sur quelques lignes du journal L'Express. Physiquement, il n'a plus sa place à l'accueil. Statue du commandeur arrivé décembre avec le sapin, son complice. Son esprit aussi a disparu. Les tirages au sort, tombola, cadeaux, pots de fin d'année, en s'échangeant les recettes du 24 ou du 31, sont bien loin, terminés, oubliés. Nous sommes désolés de vous informer de l'annulation de la soirée de fin d'année que nous vous avions annoncée pour le 16 décembre. Le groupe considère que les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour nous permettre d'organiser en toute sécurité des festivités réunissant tous les collaborateurs dès cette année. Il nous faut encore patienter un peu avant de nous retrouver autour d'événements festifs collectifs. Un mail parmi d'autres. Une soirée où il était d'usage de se retrouver entre collègues, en dehors du bureau et dans un espace se voulant convivial. On était alors à quelques heures de la trêve. On parlait ski ou de destination soleil, vacances en famille ou repos total. Livres et séries en retard, cadeaux de dernière minute, dans une atmosphère musicale parfois un peu ringarde. On commentait les vœux et les projets présentés par la direction en guise d'apéritif. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, autant dire un siècle. Pour les 2,35 millions environ de jeunes âgés de 16 à 29 ans, en décembre 2020, en emploi après être sortis de leurs études la même année, combien ont connu les bons plans ? Caisse de champagne commandée à plusieurs pour un prix attractif. Qui est le dernier à avoir remarqué les guirlandes à la cantine entre 2 confinements ? Déploiement de la fibre optique dans le cadre du schéma départemental territorial d'aménagement numérique du Rhône. Daniel Valero, vice-président du conseil départemental du Rhône en charge de la transformation numérique, nous présente l'état d'avancement du déploiement de la fibre optique sur le Rhône et plus particulièrement sur le Beaujolais Val-de-Saône.
Il y a toujours des mécontents, comme je disais tout à l'heure, parce que pour certains, ça ne va pas assez vite. Mais j'étais très fier de faire mon point annuel, comme je le fais régulièrement, sur cette avancée de la fibre dans le département du Rhône, parce que nous sommes dans le Rhône hein, à 80% de prises raccordables. En France, la moyenne, c'est 60%. Et en Angleterre ou en Allemagne, c'est à moins de 20%. Donc effectivement, il nous manque encore 20% de gens qui ne sont pas fibrés pour l'instant. Mais l'avantage, c'est que le plan national qui s'arrête à 2025, nous, on avait toujours donné comme objectif en 2016, 2022. Et qu'avec toutes les réunions que je fais avec les opérateurs Orange et SFR, enfin XP Fibre maintenant, eh bien, c'est bien toujours 2022 qui est maintenu. Donc c'est plutôt bien, surtout quand on sait que c'est tout payé par les fonds propres des opérateurs et que ça ne coûte rien ni aux contribuables, ni à l'État, ni à la région, ni au département, ni aux communes.
Avec quels opérateurs ?
Alors les opérateurs qui construisent la fibre, le réseau, il y en a 2 chez nous, c'est Orange sur 155 communes et SFR sur 53, XP Fibre, et c'est eux qui, avec qui on a traité pour installer tout ce réseau fibre. Après, il ne faut pas confondre avec les fournisseurs d'accès à Internet, ce qu'on appelle communément les FAI, et là vous en avez 4 principaux, vous avez Orange et SFR forcément, mais vous avez aussi Bouygues et vous avez Free. C'est eux qui viennent vous brancher la fibre à la maison. Mais ceux qui construisent les tuyaux, eh bien c'est SFR sur 55 communes et c'est Orange sur les autres.
La question des réseaux.
Alors, les réseaux sont construits de plusieurs façons. Les réseaux passent en souterrain dès que c'est possible et dès que ça engendre des possibilités et autres. Et puis après, ça passe en aérien et c'est là où il faut installer des poteaux. Tout à l'heure, dans mon explication, je ne suis pas allé au bout, mais je vous ai expliqué qu'il y avait des mécontents et qu'il y avait encore 20% de gens qui n'étaient pas fibrés. Mais dans ces 20%, il y a des gens qui sont un peu plus difficiles à fibrer, mais on va y arriver dans l'année prochaine. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas fibrer. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'un poteau passe devant chez eux et autres. Donc des fois, vous avez Orange ou SFR qui commence à installer tout ce qu'il faut pour que la fibre passe, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui ne veut pas de poteau devant chez lui, ça stoppe tout. Puis il y a des gens qui veulent rien. Donc on sera capable de déterminer dans ce début d'année 2022 quels sont les pourcentages de non-raccordement à la fibre pour des raisons volontaires de certains habitants ou entreprises, je ne sais pas, et les raisons peut-être plus difficiles et compliquées qui vont prendre un peu plus de temps.
Et le déploiement de la fibre sur le Beaujolais Val-de-Saône ?
On avance. Le plus difficile à gérer sur la partie de Hans, des Pierres Dorées et compagnie, c'était le travail fait par XP Fibre qui n'était pas très bon. par lui et ses sous-traitants. Mais comme partout en France d'ailleurs. L'État, en octobre, a appelé le gendarme de la fibre pour dire à XP Fibre, maintenant ça suffit, essayez de travailler comme il faut, et reprenez ce qui est mal fait. Mais nous, en fait, on avait déjà commencé en juillet au département du Rhône, parce qu'on les voit tous les mois, les opérateurs. Et donc du coup, XP Fibre s'est engagé à retravailler toutes les malfaçons, les erreurs et autres sur cette année 2021, depuis juillet, hein, et sur le début de l'année 2022. Et au moment où on se parle, 50% de ce travail-là a été réalisé. Donc ce qui veut dire qu'à fin février 2022, les autres 50% de réparation, de mise à jour et autres seront également réalisés. Donc ce qui veut dire que ça donnera un grand ouf de soulagement à toutes les communes qui sont vers les Anse, les Pierres Dorées, l'Arbrel et autres.
Le Rhône sera entièrement équipé en très haut débit. Les travaux sont en cours. La commercialisation est progressive et sera généralisée à tout le département d'ici fin 2022. Le bizarre se fait la malle. Un nouvel outil de médiation inédit pour les enseignants des classes maternelles et élémentaires au musée municipal Paul Dini de Villefranche. Le bizarre se fait la malle. Une mallette éducative et ludique qui permet de faire découvrir les artistes singuliers de la collection aux jeunes scolaires lors de leur visite au musée, comme nous l'explique Irène Mani, responsable du service des publics du musée.
Alors oui, heureusement, on a eu un soutien de la part de la DRAC, également de M. Dini, qui nous a aidés à finaliser une mallette autour de la salle des singuliers, autour des artistes singuliers de notre collection. C'est une mallette qui permet aux enseignants de l'emprunter pour 3 semaines et faire des activités autour des artistes de notre collection en classe, avant la visite ou après la visite au musée, et également de prendre certains éléments contenus dans la boîte pour venir au musée pendant 1 heure et découvrir les œuvres en vrai.
L'originalité de la démarche, la possibilité pour les élèves et enseignants de se familiariser avec l'outil.
Alors c'est une préparation parce que finalement les enseignants seront autonomes. Ils sont libres d'utiliser les activités qu'on propose de la façon qu'ils le souhaitent, les adapter aux différents niveaux qu'ils ont, parce que c'est une proposition pour des classes de maternelle, de CP, CE1. Du coup, c'est aussi à adapter par rapport au niveau de propres élèves. Ils sont des propositions pas obligatoires non plus. Nous, on a fait tout un panel de propositions, mais finalement, c'est l'enseignant qui décide ce sur lequel il veut travailler, avec des groupes en autonomie ou en classe entière.
Une façon aussi d'inscrire en quelque sorte le musée qui représente la culture, mais l'art, pendant 3 semaines au sein d'une école.
Oui, c'est surtout une façon de se rapprocher, de rapprocher les enfants à ce monde qui souvent semble très très loin, mais en réalité, il ne faut pas avoir peur, c'est ouvert à tous, surtout des collections publiques, le patrimoine est commun, ça appartient à nous tous et aux enfants aussi.
Alors, maintenant, révélez-nous tout ce qu'il y a dans cette mallette, c'est presque le sac de Mary Poppins.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets, beaucoup de manipulations. Il y a des marionnettes qui permettent aussi d'expliquer aux enfants comment venir au musée, les règles du musée, mais de façon ludique. Il y a une marionnette en feutrine qui va représenter un oiseau, l'oiseau de Armand Avril, et qui va peut-être être utilisé par les enseignants pour expliquer des concepts un peu difficiles, mais de façon ludique. Et après, il y a différents pochons en tissu dans lesquels on peut trouver des formes en bois, un memory, un loto. On a également 2 livres qui permettent de voir d'autres artistes et des cartes philosophiques, un peu des questions qu'on peut poser aux enfants, et également des outils utiles pour la visite pour les adultes, des cartes qui expliquent des petites questions qu'on peut poser avec des réponses pour accompagner la prise en main et faciliter cette approche aux artistes.
Un nouvel outil de médiation inédit pour les enseignants des classes maternelles et élémentaires au musée municipal Paul Dini de Villefranche-sur-Saône. Le bizarre se fait la malle. Une mallette éducative et ludique qui permet de faire découvrir les artistes singuliers de la collection du musée. La fin de l'actu avec Valérie Blais.
Des élus sensibles à l'éthique de la permaculture, à l'occasion de visites dans les jardins des habitants de Rivolet, animées par Benjamin Jaïr, référent permaculture cet automne, à la demande de la municipalité, nous avons interrogé David Thomasset et Priscille Dumanoir, 2 des 8 conseillers qui portent ce projet au sein de la commission développement durable, pour comprendre la démarche et l'objectif pour la commune de Rivolet.
Donc on est dans les jardins des Rivoliens pour un projet que porte la municipalité autour de la permaculture. Comment tout ça a démarré au niveau communal ?
On s'est réunis avec la commission environnement et on s'est dit ensemble que ce serait bien de monter un projet de permaculture pour le village et pour pouvoir répondre à toutes les questions de chacun. Au final, ça pouvait réunir toutes les problématiques et les envies de chacun.
Donc il y a plusieurs étapes en fait. Il y a eu d'abord la projection d'un film et puis aujourd'hui on visite les jardins. Alors le but c'est quoi ?
Le but c'est d'être dans l'observation et aussi de voir si ça intéresse les Rivoliens et savoir si jamais on part sur cette dynamique-là, parce que le but c'est pas que ce soit un projet de conseil municipal, le but c'est que ce soit un projet des habitants avant tout. Et donc c'est d'essayer de voir, de constituer un groupe qui serait intéressé pour parler de la permaculture et pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble dans le village et pour avant tout réunir les idées aussi des habitants et de pouvoir concrétiser leurs projets aussi et leurs envies.
Il y a un intervenant qui anime ces ateliers-là justement.
Ouais, donc en fait pour mener ce projet, on avait pensé à Benjamin Jaïr, donc qui habite à Saint-Cyr-le-Château, qui est pas bien loin et donc qui s'est formé à la permaculture. Et on a aussi apprécié en fait une approche qui se fait beaucoup avec les habitants, où on travaille ensemble, le projet se construit avec ceux qui participent. Et les visites de jardin, c'est un excellent exemple parce qu'en fait là chacun est rassemblé, chacun avec la diversité de son expérience de jardinage, de ses envies. Et en fait, on observe ensemble et on regarde comment on peut avancer ensemble.
Ça va tout être rempli en branches, ça va tout être remonté avec de la terre. On peut même après jardiner ou planter du verger sur la petite butte de terre qu'on a fait là. Et donc, elle retient l'eau qui descend, elle retient l'écoulement d'eau. Parce qu'on doit s'attendre à une grosse problématique d'eau dans nos régions, parce que les canicules, etc., ça va pas, quoi, c'est trop déréglé. Donc il faut anticiper ce genre de choses.
Et combien de temps ça reste aussi, tu vois, avant que ça se décompose en fait ?
Là, ça ne va pas forcément se décomposer. La butte, elle ne va pas forcément se décomposer, puisque tu remontes quand même 50 cm de terre, donc tu as une bonne base, ouais. Et tu remplis de branchages régulièrement. Voilà, et ça continue de garder l'eau, ça garde l'eau, ta butte est toujours mouillée et elle rediffuse l'eau tout doucement. Voilà. Et on fait des petits trous régulièrement parce que quand il y a des grands orages ou des grandes arrivées d'eau, il faut quand même qu'elle puisse s'écouler. Donc on redesigne un petit peu tout le terrain pour évacuer l'eau, faire des petites rigoles et faire ce genre de choses. Ça, dans un terrain comme ça, ce serait vraiment à penser. Il n'y a aucun endroit sur la planète qui n'a pas de pente. Mais quand on est à 1 ou 2%, ce n'est pas forcément gagné pour les écoulements. Donc là, on fera d'autres aménagements. On le verra peut-être chez d'autres gens. Mais ici, sur un terrain comme ça, tu peux vraiment t'aider avec des techniques pour garder des zones humides.
Si j'ai bien compris,
oui.
Dessous, tu dois mettre du branchage.
Hein, c'est ça. Tu fais du branchage. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh ben, tu n'es pas toute seule sur la planète. Et en plus, tu n'es pas toute seule à Rivolet. C'est là que justement peuvent se créer des choses où... Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la mairie ?
Nettoyer une rivière, des bords de rivière.
Il y a du branchage, mais en pagaille. Et après, un petit transport et des petits échanges. Bon, voilà. Puis c'est au coup par coup que tu vas rajouter. Mais ça, voilà, c'est un bon outil.
Donc ça, c'est sur la base du volontariat des habitants ?
Comme expliquait Priscille, en fait, l'idée, c'est à terme, en fait, c'est de constituer un petit groupe d'habitants qui seraient motivés par ce projet et, en fait, d'avoir une réflexion globale sur l'avenir du village. Donc là, on en a un petit peu parlé avec Benjamin. C'est comment construire ce qu'il appelle un design. C'est de définir différentes zones et d'avoir une vision, en fait, de quelque chose qui pourrait fonctionner, mais pour dans 20, 30 ans dans le village. Et en fait, ensuite, de réaliser des aménagements qui respecteraient en fait un vrai développement durable du village.
D'accord. Donc ça, ce sont les prochaines étapes à l'issue des visites.
Alors, du coup, c'est vraiment Benjamin Jaïr qui nous a établi sa manière de fonctionner. Donc lui, il propose donc ces 3 visites de jardin. Ensuite, on a une réunion un peu ensemble pour constituer un groupe et essayer de réfléchir à qui serait intéressé pour faire 5 jours d'atelier, 5 après-midi d'atelier, sur lequel on essayerait de faire donc ce design du village et vraiment d'avoir une espèce de formation, on pourrait dire, de permaculture et avec une petite mise en application du projet directement sur le stage.
Puis on peut aussi évoquer, évidemment, à l'échelle communale, c'est un projet qui est en écho avec ce qui se passe à l'école parce que l'idée, c'est d'essayer d'initier toutes les générations.
Voilà, sur l'école de Rivolet, là, depuis 2 ans, il y a un projet qui a été mené dans la classe des plus jeunes autour de la permaculture avec un intervenant. Donc ces projets se rejoignent et voilà, c'est super.
C'était les conseillers municipaux de Rivolet et les explications de Benjamin Jaïr sur place. notamment sur l'eau, le premier des aspects de la méthode WASPA préconisée en permaculture. Water pour l'eau, access pour l'accès à l'eau, structure pour les constructions nécessaires, plants pour les plantes et animals pour les animaux utiles à l'équilibre de l'écosystème. À la suite de ces séances d'observation de l'écosystème rivolien sur des pratiques de jardinage local, des ateliers de formation et de mise en pratique seront proposés par la municipalité pour les habitants intéressés. Plus d'informations sur cette initiative sur le site de la mairie de Rivolet.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.